J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a déposé le week-end dernier la démission de son gouvernement auprès du chef de l'État. Pour certains observateurs, c'est l'aboutissement de la crise politique déclenchée depuis le mois de septembre 2020 et cela ouvre réellement la voie pour une nouvelle coalition, à savoir l'Union sacrée de la nation. Alors comment assurer la solidité de l'Union sacrée dans l'avenir en termes de la gestion des ambitions, l'erreur du passé à éviter et les sociales de la population à prendre en compte? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook sur www.radiocapi.net. Vous êtes plus de 10 000 à avoir été touchés par ce sujet, vous l'avez lu et vous l'avez commenté. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats que nous vous soumettons. Nous allons débattre avec nous ici au pays et à l'étranger avec des compatriotes qui nous ont rejoints, qui ont émis les vœux de pouvoir participer à cette émission. Il faut encore un merci à Jean-Noël Mokondo qui assure la mise en onde de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungebo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons encore le réel plaisir de recevoir ou d'accueillir dans ce fameux studio des Radio Capi, l'habitué de cette émission, professeur Tshibangu Kalala, ancien ministre de l'Agriculture. Bonjour professeur.
Bonjour J.R. Lungembo.
Alors vous êtes acteur politique, vous avez suivi l'actualité comme nous, et c'est vrai, la messe est dite, le Premier ministre a démissionné. Cela ouvre maintenant la voie à une nouvelle coalition, n'est-ce pas?
C'est exact. Gérard Lungembo, je tiens d'abord à vous remercier, vous-même, toute l'équipe dirigeante de Radio Okapi, les amis Okapi qui sont à l'écoute. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur les antennes de Radio de la Paix sur ce sujet qui est très important. Et comme nous venons de terminer le mois de janvier, mais pas l'occasion, c'est la première émission de l'année. Permettez-moi de vous souhaiter à vous-même, à tous les amis Okapi, à tout le peuple congolais, une très bonne année 2021.
Voilà, la question, la voie est ouverte. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a mené une marge de manœuvre parce qu'il a mené une nouvelle coalition.
C'est exact. Laissez-moi d'abord admirer. Laissez les auditeurs de Radio Okapi admirer la tactique intelligente du président de la République. Il met en place une stratégie politique, une stratégie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et pour faire aboutir cette stratégie, il a mis en place une tactique politique. Encore une tactique politique du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est extraordinaire. Laissez-moi admirer cette intelligence. Le pari n'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, on a vu les kabylistes qui hier passaient leur temps à insulter le président de la République, à le traîner dans la boue. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 21 octobre dernier. On voit une grande partie des kabylistes, des députés kabylistes, qui viennent rejoindre le président de la République. On voit une grande partie des opposants qui étaient dans la Mouka, qui critiquaient le président de la République du matin au soir, venir rejoindre le président de la République. Donc nous avons là les tshisekedistes, les anciens kabylistes, les anciens opposants, dans un élan patriotique et révolutionnaire, décide de rejoindre le président de la République. Donc le président de la République transforme ainsi ses adversaires en alliés. C'est une prouesse politique extraordinaire qu'il faut saluer. Mm-hmm. Très important. Mais comment tout cela est arrivé, Gérard Lungembo? Vous dites que le boulevard est ouvert. Mm-hmm. C'est arrivé comment? Il faut l'expliquer. Je donne mon explication personnelle.
Tout à fait.
En fait, la tactique politique du président a été payante. Il a dit tout simplement, moi, je suis minoritaire à l'Assemblée nationale, mais j'ai besoin d'une nouvelle majorité parlementaire dans le pays pour refonder l'action du gouvernement, avoir un nouveau gouvernement, nous allons en parler, qui va travailler pour le peuple. Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. J'ai besoin de ce gouvernement-là. Je n'en ai pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Je vais vérifier, parce qu'il y a une majorité kabyliste qui bloque le pays, qui m'empêche de travailler, je vais vérifier si cette majorité kabyliste est toujours majorité kabyliste. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais ordonner la distribution des bulletins de vote au peuple congolais. Pour que le peuple...
Donc, en d'autres termes, je vais dissoudre l'Assemblée.
Je vais organiser des élections anticipées. Mais concrètement, c'est quoi? Je vais distribuer des bulletins de vote au peuple congolais pour que le peuple choisisse de nouveaux parlementaires. Pour la chose. Cette décision du président de la République, en deux plans, plan A et plan B, plan à temps court, plan A, vérifier s'il y a la majorité ou pas. Plan B, le plan à temps long, là on va aux élections, a provoqué un séisme politique dans les milieux parlementaires. Alors, les députés, tout courant politique confondu, se sont trouvés devant un danger. Ils disaient, mais écoutez, si le président de la République a une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, si on change, eh bien, nous allons rester des députés. On va continuer à vivre, du moins jusqu'en 2023. Mais si le président n'a pas cette majorité,
nous
allons aux élections.
Non seulement les sièges.
Oui. Mais le président...
La survie devient compliquée.
Tout à fait. Le président va distribuer les bulletins de vote au peuple. Et quel peuple, Gilles Lungembo? Un peuple mécontent. Un peuple furieux contre nous, députés. Comme disait mon mentor, Tshisekedi wa Mulumba, dont nous fêtons aujourd'hui le quatrième anniversaire de sa mort. Et je tiens à rappeler aujourd'hui sa pensée. Il nous disait cela quand nous étions des jeunes autour de lui. Il nous répétait cela, même à haute voix, qu'un peuple mécontent, il est plus dangereux, plus destructeur qu'une bombe atomique. Je suis heureux et ému de rappeler cette pensée de mon mentor. Et donc, le président de la République va distribuer des bulletins de vote au peuple. Et quel peuple? Un peuple mécontent, furieux.
À qui nous n'avons pas donné du pain.
Alors que nous n'avons pas donné du pain, du travail, la joie. Mais le peuple va nous massacrer, tous, aux prochaines élections, anticipées. Et à ce moment-là, les députés sont confrontés à un dilemme, Gérard Lungembo. Un dilemme de Shakespeare, de Hamlet, prince du Danemark. To be or not to be. Être ou ne pas être, vivre ou mourir. Ils doivent choisir, ils sont devant un dilemme shakespearien. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont confrontés à un double salut. Le salut individuel et le salut populaire. Salut du peuple. Comme le président avait dit, monsieur, moi, aujourd'hui, c'est le salut du peuple qui est la loi suprême. Mais ils se disent aujourd'hui, nous avons un salut individuel, mais nous avons aussi le salut du peuple. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclencher une révolution au sein de l'Assemblée nationale.
Donc il s'agit d'une révolution.
C'est une véritable révolution. Copernicienne. Parce que là, vous voyez, les opposants, les kabylistes, qui tous vont chez le président.
Mais la révolution a toujours été prise dans un sens péjoratif.
Non, mais,
c'est-à-dire, c'est d'esprit destructeur.
Mais bien sûr, mais
je vais y arriver. À caractère subversif.
Mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est une révolution constructive. Mais c'est une révolution constructive. Et donc, tous vont chez le président. Pour, d'abord, le salut individuel. Fuir la mort politique. Si le président distribue les bulletins de vote, c'est la mort politique pour beaucoup d'entre eux. Et donc, en ce moment-là, le député fuit la mort. Doit survivre. Il doit quitter le territoire du FCC.
Mais en violant la Constitution.
Non, mais
dont ils sont eux-mêmes les législateurs.
Mais je vais y arriver. Il quitte le territoire du FCC où il y a la mort, la famine, le froid, souffrance. On ne peut pas continuer à vivre dans le territoire du FCC ou le territoire de la Mouka. Je dois aller vivre dans un territoire où il y a la vie, où je peux manger et vivre, être en paix avec ma famille, etc. Et ce territoire, c'est l'union sacrée que le président présente au peuple, et à tous. Ils disent, bon, écoutez, il faut empêcher, coûte que coûte, empêcher le président de la République de distribuer les bulletins de vote au peuple. Parce que ça, c'est la mort pour nous. Et donc, il faut lui donner la majorité qu'il cherche. Nous serons en vie, du moins jusqu'en 2023, d'un côté et de l'autre, nous avons la possibilité de bien servir notre peuple avec un nouveau gouvernement qui sera mis en place, qui va exécuter un programme cohérent, efficace, pour que nous tous qui avons décidé d'aller rejoindre le président de la République, nous puissions présenter un bon bilan
En 2023.
En 2023, à notre peuple. Donc, les députés révolutionnaires, moi, c'est
ils
ça.
Ils ont réussi les révolutions.
Ils ont réussi la révolution.
La révolution en mettant en cause la loi fondamentale.
Non.
C'est comme si on l'a mis la loi fondamentale en suspens.
Non. Mais ils n'ont violé aucune disposition de la Constitution. Ce sont des révolutionnaires. Vous pouvez les traiter comme des vagabonds politiques, Gérard Longuembo, des incompétents, des gens qui ont régné leur foi.
Ils n'ont pas mis de côté, de façon momentanée, non. La Constitution qu'ils vont reprendre après.
Pour moi, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est un mouvement révolutionnaire. Ce sont les députés révolutionnaires qui deviennent majoritaires. Ce n'est pas une minorité, hein. C'est la majorité de l'Assemblée nationale. C'est un mouvement révolutionnaire qui veulent changer les choses. Et c'est un mouvement, c'est une révolution copernicienne. Ils n'ont pas violé la Constitution. Il y a un problème avec une disposition du règlement intérieur. Mmh. Ils disaient, mais vous avez choisi une seule fois au début de la législature de rester dans la majorité, de rester dans tel groupe parlementaire. Vous ne pouvez pas changer au cours de la législature pour quitter la majorité et aller dans une autre majorité ou quitter de la majorité et aller dans l'opposition. Vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est inscrit noir sur blanc dans le règlement intérieur. Mmh. Et c'est une bonne règle. Moi, je soutiens cette disposition.
Mais les révolutionnaires ont dit, c'est toi d'abord des côtés.
C'est une très bonne règle. Si nous voulons avoir des institutions solides dans le pays, parce que nous avons besoin des institutions fortes, pas des hommes forts, mais des institutions fortes, il faut mettre en place des règles qui renforcent ces institutions. Mais ça, Gérard Longuembo, c'est dans une situation normale. Le droit s'applique dans une situation normale. Ça, c'est oui. Mais là, nous sommes dans une situation révolutionnaire. Il y a le peuple qui n'a pas de gouvernement. Les députés eux-mêmes sont menacés de mort. Mm-hmm. Absolument. Ils vont disparaître à terme. Mm-hmm. Si le président distribue les bulletins de vote, ils disparaissent.
Tout à fait.
Donc, j'ai un problème de salut personnel. Mm-hmm. Mais il y a le peuple aussi qui souffre, qui n'a pas de gouvernement. Il y a une majorité qui ne permet pas au président de la République de travailler. Mmh. Donc on est là dans une espèce d'anarchie, d'élargie, de léthargie générale. Mmh. Mais les députés prennent leurs responsabilités. Ils se disent, mais si nous respectons l'article 26 ou 56 qui nous demande de ne pas changer de majorité, eh bien, nous bloquons le pays et nous allons nous-mêmes mourir.
Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Et donc, nous ne respectons pas
la disposition
de l'article intérieur.
Ça, c'est une révolution.
Nous suspendons son application.
Donc c'est une suspension.
Je n'ai jamais entendu un seul député dire que c'est une mauvaise disposition. Mais ils suspendent cette disposition.
Qu'ils pourraient reprendre.
Oui, mais bien sûr. Ils disent, mais quand nous allons gagner la révolution va gagner, bien, nous reviendrons à cette disposition. Mais on ne peut pas l'appliquer dans une période de crise, de salut public, salut individuel de chaque député, salut du peuple congolais. On ne va pas appliquer une disposition qui nous bloque de servir le peuple congolais. Gérard Longuembo, la loi est faite pour les hommes. Mais les hommes ne sont pas faits pour la loi. L'article 26 du règlement intérieur, cette disposition est faite pour les députés. Mais les députés n'ont pas été créés par le bon Dieu pour l'article 26.
Pour les saluts, l'intérêt commun,
monsieur,
ils ont dit on suspend cet article.
Mais un révolutionnaire, Gérard Longuembo, il faut lire l'histoire de l'humanité. Les révolutionnaires veulent créer un nouveau droit. Alors, en ce moment-là, dans ce combat politique pour créer un nouveau droit, vous ne pouvez pas leur opposer le droit qu'ils veulent changer, qu'ils veulent supprimer.
Voilà,
et donc, pour moi, les députés révolutionnaires, c'est comme ça que moi je les qualifie, ce sont des révolutionnaires, eh bien, qui font table rase des courants politiques auxquels ils appartenaient, qui font table rase des familles politiques auxquelles ils appartenaient, qui disent ici, c'est le salut du peuple qui compte, régler ce problème du salut du peuple, pour permettre au pays d'avoir un bon gouvernement et d'avancer, on suspend
l'article 26 du règlement d'ordre intérieur.
Voilà. Et parce qu'il y a des valeurs supérieures, des intérêts supérieurs qu'il faut sauvegarder.
Voilà, on va ouvrir le standard pour accueillir les auditeurs, mais je me rappelle d'une phrase que vous avez prononcée dans ces studios d'ailleurs, lorsque il y a eu le premier discours, l'adresse du chef de l'État, vous avez dit, le président de la République a tapé du poing sur la table et il a même, vous l'avez souhaité, qu'il renverse même la table. C'est-à-dire, c'est la suspension de cet article.
Je suis satisfait personnellement. Le président vient de renverser la table. Mais il ne faut pas renverser la table pour le plaisir de renverser
c'est
la table.
C'est ce qu'on va voir dans la suite. Quel est l'avenir maintenant, après avoir obtenu une nouvelle table qu'on a renversée, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui est consacré à l'avenir de l'RDC après la démission du Premier ministre. Alors Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Gérard, bonjour à notre invité, le prof Kibangou Kamala. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui comme invité de poids. Merci beaucoup, je venais de le suivre. Je crois qu'il a déjà planté tous les décors. Je ne vais pas m'éloigner totalement de tout ce qu'il venait de dire. Nous sommes tous en train de nous rendre compte. Il y a lieu de dire que le chef d'État s'est débarrassé de tout ce qu'il pouvait appeler comme écueil ou obstacle pour bien gouverner. Jusque-là, le prof l'a si bien expliqué, très bien expliqué, merci beaucoup. Il n'y a pas trop d'objections. Mais je crois qu'ils pourront aussi être d'accord avec moi que dans l'optique de la réelle politique, les contours formels et protocolaires à eux seuls ne suffisent pas encore pour penser voir la donne sociale changer radicalement. Parce que par rapport à ce qu'il est en train de dire, si nous devons regarder la situation de l'intérieur, on n'est pas encore allé très loin. Du côté observation, donc nous sommes dans la même situation. Pour les uns, il ne s'agit que de repositionnement politicien pour leur survie. Ils partent d'un camp pour un autre afin de se retrouver dans les circuits du pouvoir. C'est par rapport aux députés, par rapport à ceux qui partent, soit du MLC, Ensemble, FCC pour l'Union Sacrée. Pour moi, c'est le repositionnement pour se retrouver dans les sillages du pouvoir. Pour les autres, les concepteurs de l'Union Sacrée, c'est seulement une manière de renforcer leur pouvoir pour les réconforter en vue de faire asseoir leur politique et leurs ambitions et leur force du pouvoir. Et par rapport à cette situation, par rapport à cette constellation, je crois que le social du peuple n'est pas encore résolu. Parce que le peuple n'a pas seulement besoin de nos belles phrases.
Oui, mais Franck, nous ne pouvons pas parler du social du peuple maintenant, parce qu'il n'y a pas encore un gouvernement. Il n'y a pas encore un gouvernement. Nous disons que la voie est ouverte maintenant pour l'Union Sacrée, pour la formation de ces gouvernements. Mais à l'avenir, ce gouvernement doit se pencher sur les sociales de la population. Si on veut réellement comprendre que cette révolution, c'était pour l'intérêt de la population.
Justement, je voulais arriver au deuxième point par rapport aux suggestions, recommandations et tout ça. Mais maintenant, si nous devons arriver au deuxième point, par rapport
à l'avenir, les ambitions qu'il faut gérer.
Nous devons vraiment plaider pour qu'il y ait changement d'abord, changement de mentalité. Parce que s'il n'y a pas changement de mentalité, si ce sont les mêmes qui viennent pour refaire tout ce qu'ils faisaient l'année passée, que nous avons tous décrié, ça serait une manière.
Oui, Franck, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a commenté ce sujet en disant que la question de la mentalité, il faut désormais en RDC placer ça sur une durée. C'est-à-dire, c'est à long terme. Il ne faut pas le penser pour des actions à court terme. Parce que le mal est tellement profond que la mentalité, il ne faut pas penser changer ça du jour au lendemain.
Je crois que j'aimerais encore avoir une discussion en face avec mon vieux et le prof Kanana sur la conception politique de l'homme congolais. Mais mon ami Gérard, laissez-moi poser une question vraiment ouverte au prof qui est là au studio avec tout le respect. Prof Kibangou Kanana, nos députés, il y a quelques mois, ils ont désavoué le premier vice-président de l'Assemblée pour raison d'incompétence. Nous disons incompétence. Et les mêmes députés voient encore les
livres. Ils voient encore les livres parce qu'il est le seul candidat.
Et c'est ça vraiment la révolution? Je crois que la révolution doit aussi toucher les sensibilités.
Il faut que ce soit un changement radical.
Une révolution qui ne prend en considération que des sensibilités d'un groupe. C'est pas encore une révolution.
Merci beaucoup, parce qu'il s'agit d'une question ouverte.
Toutes les révolutions du monde.
Voilà, c'est une question directe. C'est une question directe. Voilà.
Pas seulement au Parlement. Et ça, c'est seulement une révolution en vue des repositionnements pour leur salaire. Mais tant que le peuple ne va pas encore se retrouver, les mêmes députés peuvent encore repartir de l'Union sacrée
pour l'autre côté. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. On va prendre Christian qui est à Kinshasa. Christian, bonjour.
Bonjour, Gilles, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution, Christian?
Merci de la parole accordée et une grande salutation au prof. C'est vraiment une quatrième rencontre avec les profs. Nous osons croire que nous allons finalement nous rencontrer en face et discuter un tout petit peu. Et sinon, je vais dire un mot par rapport à la thématique du jour.
Moi, êtes-vous d'abord d'accord sur ce que le prof vient de dire, qu'il s'agit là, ce que nous venons de vivre, il s'agit réellement d'une révolution. Et que l'article 26 de l'Assemblée nationale du règlement d'ordre intérieur vient d'être mis en suspens. Donc on a suspendu cet article qu'on va récupérer après.
Il appelle que, comme je l'ai dit hier, Lungembo, qu'en politique, tout se crée, que ce soit la politique, que ce soit les crises, tout comme les solutions. On peut créer une crise, tout comme on peut également la résoudre. Et donc, comme il s'est avéré que la population s'est adhérée à cette vision du chef de l'État, nous pouvons dire que c'est, en quelque sorte, une révolution, parce que la population ne s'est pas énervée. La population n'a pas donné, en fait, une carte jaune ou rouge face à ce qui vient de se passer. Alors voilà pourquoi moi je dirais beaucoup, puisque il est maintenant fort possible que tout se joue sur les castings. Le chef doit beaucoup plus être attentif et faire un très bon casting, parce que c'est sur base des gens qu'il va choisir que l'action gouvernementale devrait se produire. S'il fait un très mauvais casting, nous risquerons de retomber sur ce que nous avions constaté, ce qu'il a décrit lui-même, qu'il y avait de ceux-là qui n'obéissaient pas à ses ordres. D'où il faudrait vraiment des personnes qu'il faut, afin que ces actes aillent jusqu'au bout. Demain ou après-demain, nous allons faire le bilan, ou encore nous allons parler du social, du gouvernement qui serait mis en place. Mais s'il n'y a pas un bon casting, eh bien, des ans après, il passera encore pour nous dire, voilà, je suis désolé, voilà des personnes, voilà tellement bloquées. Et donc, voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je l'ai également souligné que, tout comme on peut créer une crise sur Lungembo, de même, on peut également la résoudre. Et voilà pourquoi, concernant la gestion des ambitions, pour moi, j'estime que écarter une personne ou ne pas satisfaire à l'ambition de telle ou telle autre personne, c'est aussi un moyen de résoudre une crise. Et si aujourd'hui, le professeur Tshibangu n'est pas au gouvernement, il est écarté, je crois que ce serait également un moyen pour résoudre une crise. Et je crois que le professeur ne sera pas du tout, ne va pas s'opposer par rapport à ce que je dis. Et voilà, c'est de cette manière que...
Oui, parce qu'il y a déjà eu une première victime de cette frustration, de la mauvaise gestion des ambitions. Nous avons vu déjà, parmi des noms qui étaient cités, des personnalités qui étaient pressenties, disons, président de l'Assemblée nationale, entre autres Liaou, le fils de Feu Liaou. Alors, aujourd'hui, on vient de l'Union sacrée vient de porter le dévolu sur Mbosso Kodia Poanga. Alors, au grand dame de Liaou, ne pensez-vous pas que ça peut créer des frustrations?
L'autre fois, je vous ai dit que Gilles Lungembo, la politique, ce n'est pas seulement un monde des intérêts, mais c'est aussi un monde de l'influence. Il a fallu mettre une personne sur qui vous sera facilement redevable. Une personne que vous pouvez influencer positivement, parce qu'il y a un précédent. Il a vécu un précédent qui il travaillait avec des gens qui ne pouvaient pas facilement, je dirais, influencer positivement. Je ne parle pas d'une influence négative, mais positivement, des personnes qui pouvaient vous être rédévables. Et donc, si aujourd'hui, Liaou n'a pas été retenu, Gilles Lungembo, il sera dans le gouvernement, il sera placé dans un autre ministère. Et pour finir, je dirais, Gilles Lungembo,
rapidement, oui.
Qui sait si Eberhan pourrait être premier ministre?
Bon, alors, nous ne sommes pas encore là. Dans les...
Je crois qu'on l'avait. Parce que Gilles Lungembo, tous les actes ou toutes les actions qu'il a conduites pendant 6 mois ont réussi. Alors, pensez-vous qu'il sera facilement écarté? Ben,
finalement, il y a des noms qui sont cités. Il y a des uns qui soutiennent Bahati, d'autres Eberhan. On cite Katumbi. Bon, voilà, on ne sait pas, c'est les secrets, les pouvoirs discrétionnaires du chef que nous attendons dans les jours ou dans les mois à venir. Merci beaucoup, Christian. Alors, Amos, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Amos.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'Etchivan Kalal.
Alors nous venons d'assister à une révolution menée par les députés pour l'avenir meilleur du Congo. Pensez-vous à cela?
De prime abord, je tiens à dire au professeur que le mal reste mal et on ne prend jamais pour modèle. Je suis navré de le suivre et soutenir la violation de nos textes encore une fois, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a violé l'article 104, je connais très bien, mais aussi le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui reste une médiocrité que nous avons hier combattu, mais que...
Oui, quand vous évoquez l'article 104, qu'est-ce dit l'article 104?
Moi, je l'ai dit, tous les gens qui sont entrés d'aller vers l'Union sacrée, j'ai à dire qu'ils y vont pour trois causes. Un, soit sauvegarder leurs intérêts, qu'ils ont eu à pied au pays pendant des années. Deux, au nom des postes qu'ils attendent. Trois, au nom de la géopolitique. Et si du moins ces gens ne parviennent pas à trouver gain de cause par rapport à leurs préoccupations, ils seront des aigris. Le mal du Congo, c'est d'avoir des hommes politiques qui changent le langage, qui changent le comportement selon l'odeur du pouvoir au nom de leurs intérêts égoïstes. Et le professeur Tshibang Kalal fait partie, parce que hier il a été centre de la Kabylie, qu'il commence aujourd'hui à décrier. Et c'est très grave pour notre pays. Moi je me dis, s'agissant de la question de savoir s'il y aura solidarité au sein de l'Union sacrée, je doute fort. Parce que si du moins ces gens-là demain, ils ne trouvent pas gain de cause, je ne veux pas citer le nom des gens. Il y a beaucoup qui sont partis juste pour des positionnements. Et que demain, on est en train de dire qu'on ne veut plus un gouvernement de plus de 60 membres comme c'était le cas, et qu'on voudrait avoir un gouvernement très réduit, pourquoi pas même un gouvernement de 30 membres.
Non, on parle de 45, au maximum, 45.
Si ces gens ne sont pas servis demain, tels que je les connais, ce sont des gourmands politiques, ils ne vont pas accepter, et ils risquent encore une fois de faire ce qu'ils ont et ils ont toujours fait, et mettre le bateau dans les roues du président de la République, et ça sera au détriment de la population congolaise que nous sommes gérés.
Merci beaucoup, Amos. Alors, Eldad, vous êtes à Kikwit. Eldad, vous êtes avec nous?
Oui,
bonjour,
oui,
Eldad, oui, vous avez là. La parole, vous êtes à Kikwit. Vous avez la parole, quelle est votre contribution?
Ok. Bon, ma contribution est que ce qui vient de se passer, c'est ce que vraiment le peuple attendait. Mm-hmm. Parce que tout le peuple attendait vraiment la destitution de ce gouvernement. Et il nous camera qui bloquait le pays. Alors, le peuple est content et nous attendons le nouveau gouvernement avec le meilleur réalisation.
Merci beaucoup, Eldad. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, okay. Professeur. C'est vrai, tout okay. Le monde attend. Il y a beaucoup d'attentes. Hein. Les attentes de la population par rapport à ces nouveaux gouvernements. Comme je l'ai dit au début, il y a une voie qui est ouverte maintenant. L'Union sacrée n'aura plus d'excuses en 2023. Le peuple ne pardonnera pas. Nous supposons que le terrain est débrayé maintenant, est balayé. Et il y a tout un boulevard maintenant. Il y a la majorité. Et les problèmes des ambitions, parce que ça risque de constituer un grand défi. Les ambitions, ceux qui ne vont pas trouver leur compte, ils iront peut-être en étant dans l'Union sacrée, mais en étant en même temps dans l'opposition. Parce que nous avons reçu Jean-Lucien Boussa dans ses studios, qui nous avait dit, il était du FCC, mais il s'opposait à toutes les réformes proposées par le FCC au sein de leur discussion en Bouéla ou ailleurs.
Oui, Jacques Loukebo, je persiste. J'ai le plaisir de signer pour dire à M. Amos que les députés révolutionnaires, je pète, ils n'ont violé aucune disposition. L'article 26 a un auteur qui a créé, qui a fabriqué cet article 26.
C'est les députés.
Ce sont les députés. Mmh. C'est l'Assemblée plénière, c'est la majorité des députés. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'auteur d'un acte d'abroger son acte ou de le suspendre? C'est lui l'auteur, l'acte. Et donc, les députés révolutionnaires, confrontés au salut individuel et au salut du peuple, ils ont dit, nous suspendons l'application de l'article 26 parce qu'il y a des intérêts supérieurs, notamment du peuple, qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Il y a 300 ou 350, si pas plus, députés. Est-ce que tous les députés, là, ils l'ont fait parce qu'ils veulent devenir des ministres? Il y aura un gouvernement de 350 ministres? Ces 350 députés ou plus seront tous des DG des entreprises publiques? Ces députés-là, ils vont, beaucoup, la majorité, c'est le cas, vont se contenter de leur salaire, pour m'exprimer ainsi, mensuel qu'on va leur donner, qui est d'ailleurs minable. 3 900 ou 4 000 dollars. Mais ils ont un problème réel. Le pays est bloqué. Ils doivent déclencher un mouvement révolutionnaire. Tout simplement. Et on ne peut pas opposer à ces révolutionnaires qui veulent sauver le pays, débloquer le pays. Le pays est engagé dans des échéances internationales. Bientôt, le président va commencer à présider l'Union africaine. Il va aller au G20. Il y a des jeux de la francophonie qui arrivent. Et tout cela, j'irai dans un pays où il y a du désordre. Il fallait vite mettre fin au désordre. Mettre en place un gouvernement de rendement qui peut travailler. Et donc, ils sont motivés par cela. C'est un intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Et pour satisfaire cet intérêt général, ce bien commun, il ne doit pas être bloqué par une disposition du règlement intérieur. Ça, c'est des juristes incompétents qui ne comprennent pas les choses. À un mouvement révolutionnaire qui veut changer les choses, vous ne pouvez pas leur opposer une règle de droit qu'ils veulent changer en disant ne faites rien parce qu'il y a telle règle qui vous empêche. Mais non, mais ils renversent tout parce qu'ils veulent créer un nouveau droit, une nouvelle situation. Donc, ça c'est un, de deux.
Donc, dans une crise politique, la politique prend devant le droit.
Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est que la politique prend ses lettres de noblesse. C'est la politique, c'est pas le droit. Le droit, on l'applique dans une situation normale. Sauf si c'est le droit qui est prévu pour être appliqué dans des situations exceptionnelles, oui, là, on applique ce droit-là. Mais le droit est appliqué dans une situation normale. Le droit parlementaire. Mais là, il y a une crise politique immense, extraordinaire. Le pays est paralysé. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de parlement. Ils se donnent des coups, ils s'insultent du matin au soir.
Mais ben pourquoi la Cour constitutionnelle n'avait pas laissé les politiciens eux-mêmes régler cette affaire au lieu de s'immiscer rapidement en interprétant le texte?
Gilles Longuevo, vous m'amenez à critiquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais rappelez-vous, vous m'avez fait arrêter, vous, en 2015.
Je m'excuse pour ça, mais heureusement, vous êtes déjà dehors, de la prison au gouvernement.
Quand j'ai critiqué la Cour constitutionnelle le 15 septembre 2015 avec
je m'en souviens. C'était toujours la même émission.
Mais on m'a arrêté deux semaines après.
Non, je ne vous demande pas de critiquer l'arrêt, mais d'interpréter ou d'analyser un peu.
Je ne suis pas très heureux avec l'arrêt de la Cour. Il y a eu une mauvaise idée du bureau provisoire d'aller demander l'avis, l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'était une mauvaise idée. Parce que les révolutionnaires, les députés révolutionnaires étaient en train de régler le problème
de manière politique
et révolutionnaire, et ils le faisaient très bien. Ils n'avaient pas besoin d'un secours, ils n'avaient pas besoin du secours de la Cour constitutionnelle pour qu'ils avancent dans leur révolution. Ils avançaient très bien. Les choses avançaient très bien. Mais la Cour est intervenue en créant encore des confusions. Voyez-vous? Parce que, écoutez, la même Cour a dit que l'article 26 est conforme à la Constitution pour autoriser la publication, la promulgation de ce règlement intérieur.
Il l'a dit le matin.
La Cour l'a dit le matin. Elle a dit, voilà, j'ai vérifié tous les articles du règlement intérieur qui m'est présenté. Tout est conforme à la Constitution, donc y compris l'article 26.
Et puis le soir?
Et l'après-midi, la Cour nous dit, la violation
est aussi
conforme à la Constitution. Mais là je ne comprends pas. Là, je suis perdu. Hein? Ou bien, finalement, qu'est-ce qui est conforme? L'article 26 est conforme à la Constitution, mais sa violation est aussi conforme à la Constitution. Ça ne va pas, ça. Là, je suis resté sur ma soif. En plus, mais l'article 110 de la Constitution nous dit qu'un député qui quitte son parti, il perd
son siège. Le mandat.
Bon. S'il le fait de manière délibérée. OK? Alors que le mandat n'est pas impératif. Mais s'il quitte son parti, il perd son mandat parlementaire. Alors que le mandat n'est pas impératif. Le peuple congolais l'a dit. Vous comprenez ça? Mais non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut respecter les partis politiques. Il faut respecter les regroupements politiques. entre le peuple et le Parlement, il y a des corps intermédiaires. Les partis politiques, la Constitution dit que c'est eux qui s'occupent de l'expression des suffrages, etc. Il faut respecter les partis politiques, il faut respecter les arguments politiques. Si un député, un Congolais, volontairement, s'engage dans un parti politique et il reçoit un mandat parlementaire dans ce parti politique, il doit se soumettre à la discipline du parti.
Alors, répondez donc à la question de...
Sinon, il y aura l'anarchie.
Tout à l'heure, Franck parlait de la candidature de Jean-Marc Kabound au poste de deuxième vice-président, pardon, premier vice-président de l'Assemblée. Et c'est, au même poste, il a été, lui, déchu à un certain moment pour incompétence. Alors, aujourd'hui, dans l'Union Sacrée, on le remet là-bas. Est-ce que c'est... Il n'y a pas d'autres personnes? Et il n'y a pas d'autres valeurs, d'autres ressources qu'on peut proposer, l'Union Sacrée peut proposer. C'est pour certaines personnes, ils pensent que, bon voilà, ça c'est déjà des signaux qui annoncent l'échec total de l'Union Sacrée.
Je ne connais pas très bien le dossier de Jean-Marc Kabound. Mais en suivant la presse, à l'époque, il a été destitué tout simplement parce qu'il avait critiqué la décision de convoquer le Congrès. Sur proposition... sur une idée lancée par le président du Sénat qui disait, voilà, le président a violé la Constitution, il faut qu'il y ait un congrès qui arrive. Et lui, il a dit, non, mais ce congrès, ça va coûter cher. On lui a dit, mais 10 millions, c'est pas 15 millions. Puis lui, il a dit, mais non.
Donc pour avoir dénoncé, on lui a collé une infraction, on lui a collé une incompétence.
Oui, prouver que ça fait 10 millions, c'est très compétent. Et donc, il a été destitué dans ce contexte-là. C'était un scandale au départ de voir la majorité FCC s'allier avec la minorité de l'opposition pour destituer un allié, leur principal allié dans la coalition KHFCC. Je crois que ce qui arrive ici, ce n'est que justice. On fait réhabiliter quelqu'un qui a été injustement écarté de son poste. Écarté injustement de son poste par des intrigues politiciennes. Et donc, je considère que ce qui arrive, la reprise de Jean-Marc Kabound, en fait, c'est une réhabilitation par rapport à l'injustice qui a été causée. Pour le reste, les gens peuvent continuer à discuter, à arranger les choses, mais moi je considère que c'est une réhabilitation d'une personne qui a été injustement écartée de son poste par des combines politiciennes. Mais les gens peuvent continuer.
Voilà.
Maintenant, je reviens à la question essentielle ici, qui a été soulevée par... Franck, fondamental, et je salue mon ami Franck de Vienne. Je suis heureux de parler
avec lui.
J'espère que nous allons nous rencontrer pour approfondir nos discussions. Franck, vous avez raison, je partage avec vous l'entrée de ce que vous avez dit. Mais il faut savoir ceci. Il faut savoir que, et moi je suis le premier à le dire, les forces kabylistes ont été défaites complètement. Et c'est une bonne nouvelle, bloquer le pays. Maintenant, il ne faut pas sombrer dans l'euphorie, dans le triomphalisme. Il faut rester lucide. Le président a certes maintenant la majorité parlementaire, c'est évident. Mais le plus dur est devant nous. Le plus dur est devant nous. Il y a des réformes de l'État qu'il faut engager.
Il faut des hommes capables pour amorcer ces réformes.
Bien sûr, il y a des réformes qu'il faut engager. Le peuple lui a donné la majorité. Comme vous avez dit, bon,
la majorité qu'il cherchait là.
Mais là, mais non. Il va mettre en place.
Il n'y a plus d'excuses.
Il n'y a plus d'excuses. Il va mettre en place un gouvernement qui va travailler. Mais le peuple attend le bilan. C'est ça. C'est pas avoir la majorité pour le président d'avoir la majorité ou former le gouvernement pour le président pour avoir le gouvernement. Mais là, il y a le bilan, il y a le travail qu'il faut faire pour le
pays. Est-ce qu'on peut espérer même une petite goutte des résultats en une année?
Oui, c'est exact. Il faut mettre l'euphorie, le triomphalisme derrière. Maintenant, la réalité, nous serons maintenant devant des réalités qu'il faut résoudre. C'est vrai, comme Franck le dit, il y a le social. La demande sociale est très forte, très très élevée. Il faut satisfaire cette demande. Pour le faire, il faut, comme le président l'avait indiqué lui-même, avoir une équipe gouvernementale cohérente, efficace, digne. Composée des gens, des hommes et des femmes déterminés comme le président lui-même. Pour pouvoir tirer le pays vers le haut.
Mais pour trouver ces gens, ce sont les mêmes politiciens, des repositionnements qu'on va prendre parce qu'on ne va pas chercher des politiciens ailleurs.
Oui, Franck l'avait dit à l'émission passée, il le répète aujourd'hui, mais on ne va pas chercher aller au ciel pour chercher. Ce sont les Congolais qui sont là, qui vivent aujourd'hui. Mm-hmm. Bien. Le président de la République a les mains libres. Je pense pour ma part, mais ça ce sont des réflexions mm-hmm. que nous faisons avec vous, nous nous sommes
tout à
la rue.
Hein.
Mm-hmm. C'est le président.
Non, c'est une tribune populaire, voilà. Les gens réfléchissent.
C'est, le
c'est à eux de prendre voilà. de ne pas prendre en compte.
C'est exact. Mm-hmm. Le président, c'est lui le maître, c'est lui le maître des horloges, le président. Mm-hmm. Comme le prévoit la Constitution, il va consulter ses partenaires de la majorité parlementaire. Parce que la Constitution dit que le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Mm-hmm. Il doit nommer au sein de la majorité, après consultation avec cette majorité. Mm-hmm. La majorité parlementaire est là. Le sénateur Bahati lui a donné les 25 mm-hmm. regroupements politiques qui sont dans l'Union sacrée, majorité parlementaire. Mm-hmm. Il va entrer en consultation avec ses partenaires de la majorité parlementaire.
Alors, si c'est proposé, par exemple, 25 ministères au pourrata de 25 regroupements qui constituent aujourd'hui la majorité.
Je vais arriver à cet aspect de problème, mm-hmm. parce que ça me donne de vieux souvenirs. Mm-hmm. Donc, il va consulter. Il va nommer une personnalité après mm-hmm. consultation avec ses partenaires. Et il va former le gouvernement. Je pense pour ma part qu'il faut éviter ces histoires de poids politique. Voilà. On a vu avec le gouvernement sortant, il y a eu un débat qui a pris beaucoup de mois, de semaines. Le FCC qui réclamait 80% des membres du gouvernement pour donner ne plus que 20% au cash. Discussion. Le président s'est exprimé sur cette question, je me rappelle. À l'étranger, en répondant à une question, il dit oui.
Ils ont la majorité.
Il dit bon, ben, ça sera. Il demande 80%. Ben, nous, on veut moitié-moitié, 50%, mais ça ne sera ni 80%, ni 70%. Ça sera quelque part au milieu. Bon, ils ont trouvé. 65-35. OK? Pas politique. Qu'est-ce que ça a donné au pays? Ces histoires des quotas, des clés de répartition par force politique. Mmh. C'était une catastrophe. Maintenant, le gouvernement vient de partir destitué. Mmh. Dans la honte. Et donc.
Il faut éviter le poids politique.
Il faut en tenir compte, mais ça ne doit pas être l'élément principal. Hein.
Mais qu'est-ce qui doit être l'élément principal?
Et le président doit chercher des talents. Il faut des talents dans la société congolaise. Il y en a parmi les forces politiques qui sont représentées au
Parlement.
Mais
s'il n'en trouve pas là-bas...
Il peut être dans la société globale. Mm-hmm. Il y a des gens qui ne sont pas dans les partis politiques, qui ne sont pas dans les groupements politiques, des cadres tu vois, qui ont des compétences, des expériences dans tel ou tel secteur de la vie.
Et ceux qui proposent qu'il y ait d'abord un profil qui doit précéder... au recrutement ou au choix.
Bon, attendez ces histoires de profils. Le président, nous sommes en politique. On n'est pas en train de chercher des experts pour travailler dans un laboratoire universitaire ou scientifique, ce genre de choses. C'est des politiques. Le président de la République a des mains libres. Il a des objectifs politiques qu'il veut attendre. Il va mettre en place une équipe politique, composée des politiques, des technocrates, ce que vous voulez, qui doivent faire le travail pour le pays. C'est ça ce qui est essentiel. Mmh. Et donc, il ne faut pas lier le président venir. Oui, moi j'ai autant de députés à l'Assemblée nationale, je réclame autant de ministres, je vais faire ceci. Il faut abandonner ces histoires-là. Maintenant, le président, c'est lui le maître des horloges, il doit consulter ses partenaires.
Mais j'ai suivi les formateurs pour le cas de l'Assemblée nationale, ils ont tenu compte des poids politiques. Hein.
Bon, le poids politique, ça c'est l'Assemblée nationale qui a un combat de députés, etc.
Mais dans le gouvernement, il faut que le président ait les mains libres.
Le gouvernement n'est pas un club de réflexion.
C'est pas un club de réflexion.
C'est pas un réflexion. On doit aller discuter, etc. On choisit des hommes compétents, des femmes.
Et ça doit être dans le pouvoir discrétionnaire du chef.
Oui, mais il doit discuter avec ses collègues, ses partenaires qui lui ont donné la majorité. Mm-hmm. Ils ont un mot à dire pour voir comment faire les dosages, les équilibres. Moi, j'ai participé à la formation d'un gouvernement. Mm-hmm. Je sais combien c'est difficile, les équilibres. Il y a un critère essentiel, c'est le respect de la diversité nationale. Mm-hmm. La représentativité nationale du gouvernement.
Géopolitique.
Ça s'est mis dans la Constitution. Ça doit être respecté. Pour le reste, le président doit avoir des mains libres. Parce qu'après tout, c'est lui qui sera comptable mm-hmm. devant le
peuple. En 2023.
Oui. De l'échec ou de la réussite du gouvernement. Et donc, il faut qu'il ait un mot à dire sur l'équipe qui va l'accompagner. J'ai un mauvais souvenir.
Je vais revenir sur ces mauvais souvenirs.
Les mauvais souvenirs, on va en parler. Avec ces histoires de gouvernement.
On va balayer les auditeurs qui nous ont rejoints rapidement. Gracia, vous êtes avec nous. Gracia, vous nous avez rejoints. Bonjour, Gracia.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Je suis bel et bien grâce à Bakaji Kadiplat de Kisamani.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, je salue l'aboutissement de cette démarche, car c'est un retournement historique de la situation politique dans notre pays, dont après plus de 18 ans de l'installation du système de prédateurs mis en place par Joseph Kabila. Maintenant, le peuple congolais peut enfin rêver un grand, car il était étouffé en désespoir, abandonné à son triste sort par le dirigeant qui ne voyait que leurs propres intérêts. Mmh. Il faut savoir que depuis 1960, presque tout le combat politique entre le président de la République et le premier ministre, c'est toujours le président de la République qui gagne. Mais
depuis 60,
n'est pas encore fini.
C'est toujours le président de la République qui gagne. Donc vous vous souvenez de Kasavubu et Lumumba?
Oui, oui. Car il y a un classique du FCC qui est à la tête du Sénat, occupant un poste très stratégique, probable et remplaçant le président de la République et des mandataires des entreprises publiques qui doivent encore partir. Mmh. Et je crois que le peuple congolais a aussi besoin de voir l'énergie dégagée par le membre de l'Union sacrée pour l'anéantissement du clan Kabila soit la même pour le développement de notre pays.
Merci voilà beaucoup, Gracia. Merci beaucoup, Gracia. Alors, on va écouter Eldad. Eldad, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Eldad.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Vous avez la parole,
Eldad. Merci d'abord pour la parole. Je salue tous les auditeurs de la radio au Okapi. Ma contribution est que, d'abord, la procédure de la destitution du gouvernement Ilukamba, je dirais que c'était vraiment une volonté du peuple. C'est ce que le peuple
voulait.
Oui, alors?
Oui, c'est ce que le peuple voulait, vous avez dit.
Oui, c'est ce que le peuple voulait. Parce que le gouvernement Ilukamba n'était pas là pour servir le peuple, mais il était là pour défendre son chef, le roi de Kingakati, qui aujourd'hui à Kashamata. Alors, le président de la République a aujourd'hui la majorité du Parlement. Il va nommer le premier ministre de son choix qui va l'accompagner pour la réalisation.
Non seulement le premier ministre, même les ministres de son choix. Voilà, merci beaucoup. Alors, on prend Salomon. Salomon, vous êtes avec nous? Salomon?
Je vous écoute. Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, cher Salomon. Quelle est votre contribution?
Oui, nous saluons cette décision où le gouvernement Ilukamba a été déchu. Nous savons que le gouvernement de Ilukamba, c'est un gouvernement ici d'une coalition FCC-CACH. C'est le premier coup que le président de la République a mis fin à cette coalition. Et c'est plus important que ce gouvernement existe. Donc c'est un gouvernement qui a travaillé dans les intérêts d'une autorité morale et les intérêts du peuple. Alors, avec cette union sacrée, qui est la vision du chef de l'État, qui est une vision salvatrice pour l'intérêt du peuple qui sera placé au centre de tout, nous saluons cela et nous demandons aux nouveaux animateurs qui seront nommés d'ici là par le chef de l'État, qui travaillent, monsieur le journaliste,
pour l'intérêt
du peuple et non sur l'intérêt politicienne. Ça veut dire, nous ne voulons plus des autorités morales, nous ne voulons plus avoir des ambitions à la présidence, tout ça. Non, non, pour le moment, monsieur le journaliste, nous voulons que le nouveau gouvernement mette l'homme au centre, mette le peuple congolais au centre pour l'avenir, ainsi que le progrès de notre pays. Voilà au moins ma contribution.
Voilà, merci. Par rapport à... Merci beaucoup. Voilà. Alors, on revient à vous, professeur Tshibangoukalala, les mauvais souvenirs.
Oui, d'abord, je tiens d'abord à saluer
les auditeurs qui rappelaient
qui ont fait des déclarations très intéressantes et particulièrement Salomon. Qui fait des choses intelligentes et sensées, responsables. Ça c'est la voix du peuple profond, la voix du Congo, la voix du Congolais profond. Ça c'est très bien, Salomon. Monsieur Salomon, je suis d'accord avec vous, mais pour cela arrive, c'est que vous saluez, il a fallu des députés révolutionnaires qui se sont remis en cause, qui ont dit mais nous ne sommes pas là pour des individus, pour nos intérêts personnels. Le pays est bloqué, il n'y a pas de gouvernement.
Mais pourvu que ça dure.
Et donc, nous devons absolument apporter notre contribution. Nous devons détruire les barrières partisanes des regroupements de ceci. Nous devons, dans un élan patriotique, rejoindre le président de la République. Et pour faire cela, il n'y a pas une barrière devant nous, légale, d'un article du règlement intérieur. Nous suspendons ça. L'intérêt du peuple prime tout. Donc il faut saluer ces députés révolutionnaires qui ont fait ce travail excellent que nous saluons. Mais, tout n'est pas fini. Les difficultés sont devant nous. Il faut être modeste. humble et rester lucide, avoir la tête sur les épaules. On n'est pas sorti des difficultés. Maintenant, il faut former un gouvernement. Comment on va former ce gouvernement? Le président, c'est le maître des horloges. J'ai indiqué, en ce qui me concerne, moi,
parce c'est que vous en avez faire. L'expérience, vous avez déjà participé à la formation du gouvernement.
Oui, mais j'ai un mauvais souvenir sur ce problème des ambitions. Je me rappelle ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Je parle aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de la disparition de mon mentor. Je vais rappeler ce qu'il a vécu, dramatique. Il forme le gouvernement de 22 ministres quand il est nommé
premier ministre de la conférence
nationale souveraine. J'étais là, délégué à la conférence nationale.
Les Lopunda qui sont entrés.
22 ministres. Mais ça crée un problème. Même avec ses proches amis avec qui il a travaillé. Il y avait 4 délégués de l'UDPS à la conférence nationale. Kibassa, le vieux Bankem, il y avait le professeur Liao et lui-même. Ces 4 délégués. Quand il forme le gouvernement, aucun de ces 4 ne s'est retrouvé dans le gouvernement. Ça provoquait des mécontentements. Et le mécontentement qui m'a marqué.
Je me rappelle à cette époque-là, Liao avait même quitté l'UDPS en disant dans leur coterie.
Juliette Longuembo, c'est parfait ce que vous venez de dire. Moi, j'ai rencontré le vieux Liao pour la première fois à New York en 89. Je parlais avec lui toute la journée. Il était chercheur résident à Boston, à l'université de Harvard. Mais Liao, pour moi, c'était une lampe, c'était un phare dans les ténèbres.
Mais il a évoqué la coterie.
Et Liao, déjà en 60, il était commissaire général à la justice. Et son adjoint s'appelait Étienne Tshisekedi, à la justice. C'est des amis qui se connaissaient depuis l'année 60.
Mais pour la gestion des ambitions, ça posait.
Et tous les deux se retrouvent dans l'UDPS, fondateur. Et moi, jeune juriste et les autres, je voyais deux phares devant moi, des modèles à suivre. Liao et Tshisekedi, des docteurs en droit, parmi la première génération. Mais moi, je me trouvais devant des monuments, devant moi.
Mais ça s'est mal soldé.
Gérald Longuembo, quand on crée la commission constitutionnelle à la conférence nationale, c'est Liao qui est président de la commission constitutionnelle. Et nous avons, moi j'étais membre de la commission, j'ai couru vite, je vais dans cette commission voir Liao, comment il va diriger, profiter de ses idées, etc. Il était déjà à la commission constitutionnelle de Loulabourg, commission de Loulabourg. Il a très bien rédigé, dirigé cette commission et on a fait des rapports à l'Assemblée plénaire.
Mais il n'est pas repris parmi les ministres.
Mais Liao n'est pas nommé ministre par son ami Tshisekedi.
Le problème commence.
Liao se fâche. Il claque la porte de l'UDPS. Et de quelle manière? Il le dit publiquement. Il qualifie l'UDPS, comme vous l'avez dit,
la coterie
d'une coterie tribale. Alors, la base Louba de l'UDPS s'enflamme. Prend les armes et va en découdre avec Liao. Et il lui a rappelé tous les bienfaits que l'on fait.
Parce que l'histoire ne se répète
et donc,
pas. Liao aujourd'hui fils
Et voilà des vieux amis depuis 60 qui se séparent parce qu'il y en a peut-être au gouvernement. Mécontentement. Mais il n'était pas seul.
J'imagine qu'il y a une deuxième expérience, une mauvaise expérience, c'était avec Tshibala.
Mais il y avait Kibasa était mécontent, Birunda était mécontent.
Kibasa a créé donc, même une autre IDPS.
Jusqu'aujourd'hui, à cause de ça, tout est parti de là. Et donc, franchement, j'entends les gens qui disent oui, mais il faut.
Et deuxième mauvaise expérience. Est-ce que ce n'est pas à l'époque pour constituer le gouvernement Tshibala?
Non. Il faut un gouvernement
resserré. Par là.
Il faut un gouvernement resserré. Il faut, c'est pas 30 ministres, 30 ministres, etc. Je crois qu'il ne faut pas commencer à lancer des chiffres comme ça. Il faut laisser le président.
Est-ce que vous avez eu du mal à constituer votre gouvernement avec Tshibala?
Oh non, pas du tout. Parce que nous avons très bien fait les choses.
Avec les FCC.
Non, on avait très bien fait les choses. Il y avait l'arrangement particulier qui a été négocié, discuté et adopté. On avait réparti des quotas par composante.
Est-ce que cette approche-là, vous pouvez peut-être proposer ça au chef de l'État actuellement?
Non, mais moi je suis dans
les réalités ne sont pas les mêmes.
Moi, je suis dans la rue avec vous.
Nous sommes dans la tribune populaire.
Je ne vais pas me mêler de ça. Oui. Mais la taille du gouvernement, parce qu'on en parle. Il faut qu'on trouve le juste milieu. Pas trop, fantasque, pas trop peu non plus. Il y a des hommes qu'il faut gérer. Il y a les sensibilités qu'il faut gérer.
Et il faut être franc, quand on ne trouve pas de valeur au sein du parti, il faut trouver tout à fait. Ailleurs.
Le gouvernement ne coûte pas trop cher. Par rapport à l'Assemblée nationale qui a 500 députés. Au Sénat, les sénateurs touchent d'ailleurs plus que les ministres. Je sais, ils gagnent plus que les ministres. Mais ils sont 108 ou 109. Et les ministres, c'est une quarantaine ou soixantaine de personnes. Ils n'ont pas de gros salaires. Donc il ne faut pas trop exagérer en ce qui concerne le gouvernement. D'ailleurs, mon ami Bahati le sait, on a discuté tout le temps avec lui. Sur l'enveloppe salariale réservée aux ministres par rapport aux autres institutions. Il ne faut pas exagérer les choses. Ça va coûter très cher avec votre ministre. Mais il faut le juste milieu. Et ce juste milieu, c'est le président qui va le trouver après discussion avec ses partenaires de l'Union sacrée, de la majorité parlementaire. Mais il ne faut pas commencer à imposer, parler des chiffres. Il faut le juste milieu. Pas trop non plus, pas trop peu. Il faut le juste milieu. Et c'est le président qui va trouver ce juste milieu après discussion avec son partenaire. Il faut éviter de frustrations bruyantes, comme celle de venant de parler du professeur Liaou, des autres, des Kipasa, etc. En résumé, félicitations aux députés révolutionnaires de l'Assemblée nationale qui nous ont permis, n'est-ce pas, de défaire les forces kabylistes. Ça, c'est un, et c'est très bien. Maintenant, le plus dur va commencer. Il y a un travail à faire pour le pays, et pour moi, ce travail, il faut un programme de gouvernement cohérent. Il ne faut pas embrasser trop de priorités. Il y a trop de priorités dans notre pays. Il faut se concentrer sur deux priorités, par exemple, et faire un bon bilan à notre peuple en 2023 sur deux ou trois priorités qui auraient été sélectionnées par le gouvernement. Il ne faut pas disperser les moyens, disperser les énergies en voulant trop embrasser.
Et qui donc, trop embrasse mal, étreint.
Bien sûr. Et donc, il faut du travail et du travail sérieux. Et le peuple nous attend. On ne va pas continuer à dire oui, c'est Kabila qui était responsable, oui, Kabila a fait ceci ou cela. Non. Maintenant, c'est l'Union sacrée qui sera aux affaires. Et ils doivent travailler avec beaucoup d'efficacité pour avoir des résultats à présenter au peuple en 2023.
Professeur Tshibangu Kalala, c'était un réel plaisir de partager encore ce moment d'analyse purement scientifique et de manière citoyenne avec la population ici au pays et à travers le pays. En tout cas, les Congolais qui sont intéressés par nos différents débats, en parole aux auditeurs, nous ne manquons pas cette occasion pour leur dire merci, en tout cas de la confiance qu'ils continuent à nous faire, de la confiance qu'ils font aussi également à nos politiciens, entre autres à vous, professeur Tshibangu Kalala. Nous tenons compte, en résumé, il y a révolution, la révolution menée par les députés et pour l'intérêt de la nation. Nous allons voir dans les jours, les mois à venir et même dans les heures à venir que comment ça va se passer. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luambung Anji. A très bientôt pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.